Voici Histoire vivante, présentée comme chaque jour par Jean Leclerc.
Histoire vivante, proposée par Irène Chaland et Jean Leclerc.
Cette semaine, en nouvelle diffusion, la CIA. L'agence, sa vie, ses œuvres.
Culture libre dans un monde libre.
Nous étions tous financés par la CIA, mais nous ne nous en doutions pas.
La mission de la CIA est, reste la sécurité nationale des États-Unis, légalement ou illégalement.
William Paley, fondateur de la station CBS, est l'un des créateurs de la CIA, membre du conseil d'administration du MoMA.
La planification et l'exécution des opérations devaient être organisées de façon à ce que la responsabilité des autorités américaines ne puisse pas être mise en cause.
C'est avec le plan Marshall et les fonds de contre-valeur que nous avons financé le Congrès.
En pratique, ça allait de la production de livres écrits de toutes pièces pour l'occasion, aux attentats contre les structures sociales et économiques, jusqu'au recrutement d'agents.
Ajax versus Pravda.
J'ai juré en quittant l'armée des États-Unis que je ne dirai jamais rien sur ce sujet.
Mais vous m'en avez parlé.
Vous ne pouvez pas le prouver, non?
Je peux affirmer que vous me l'avez dit.
Racontard.
Donc, vous ne voulez pas parler?
Non, je ne le dirai pas. Mais des gens possédaient des armes biologiques et ils s'en sont servis. N'en dirai pas plus. Ils les ont utilisés.
Là où le souci est d'effacer toute trace, toute documentation, il n'y a pas de place pour autre chose que pour le romanesque. D'où OSS 117, d'où John le Carré et tous les autres. Ou alors, les journalistes. Les dernières parutions, en tout cas en français, sont pour la plupart dues à des journalistes. En scientifique, ou un historien dans l'acception du chartiste qui s'appuie sur des textes, s'empare extrêmement rarement de la matière du service secret et de l'espionnage. C'est donc à nous de trouver les mots de l'énigme, et plus précisément notre imaginaire, qui est forcément marqué par le lieu où l'on se trouve. L'espionnage et le service secret, pour moi, ne sont pas les objets de l'histoire, mais ce sont l'expression de notre inconscient, de l'histoire que nous sommes en train de vivre.
Les services secrets, expression de l'inconscient de l'histoire que nous vivons. Une interprétation sur laquelle Jacques Mathédoré aura l'occasion de revenir un peu plus tard, mais qui, dès le départ, nous met sur la voie du décryptage obligé auquel nous sommes amenés à avoir recours dès lors que l'on veut s'intéresser à ce type d'univers. Nous aurons l'occasion de le dire et de le redire, et tant pis s'il s'agit d'enfoncer des portes ouvertes. Dans le monde du renseignement, il n'existe rien qui ne soit systématiquement, forcément codé. Nous retrouvons Jacques Mathédoré.
C'est la CIA elle-même qui est au centre du problème. Elle est fondée en 1947 par Harry Truman, en tout cas sous son autorité. Son siège est à Langley, en Virginie. Elle compterait, parce que tout ça est à vue de nez, sont des approximations, on ne sait pas, une vingtaine de milliers d'employés officiels. Et son budget dépasserait 1,5 milliard à 2 milliards de dollars. On estime toujours à vue de nez que ce n'est que le 20e des sommes consacrées par les États-Unis à leur sécurité intérieure et extérieure. La CIA, vous l'avez dit, et on le dit souvent, est très fréquemment promise au déclin. Le dernier bouquin paru en français de Baer parle même de la chute de la CIA. Mais il faut se méfier, il y a peut-être là de l'auto-intoxication.
La chute de la CIA, Robert Baer, chapitre 1, 15 mars 1995, Fort Langley, Virginie.
I hear phrases thrown around like the Comme on me l'avait demandé, je me suis présenté au bureau de Fred Turcot à 9h tapante. J'avais travaillé pour Fred au siège antiterroriste de la CIA au milieu des années 80. Maintenant, il était responsable d'un nouveau bureau créé pour renforcer la sécurité au sein de l'agence. Je savais pas du tout pourquoi il m'avait convoqué. Quand il m'a vu dans l'embrasure de sa porte, Fred m'a examiné avec attention, sans forcément apprécier ce qu'il voyait. J'étais rentré d'Irak du Nord la veille au soir. Je devais avoir l'air d'être resté des années sur le terrain. Je n'avais pas eu le temps de me faire couper les cheveux, j'avais un coup de soleil. Je portais une veste en tweed qui avait passé 3 mois au fond d'un sac marin. Il m'a demandé de m'asseoir. En silence, il a passé ses doigts dans sa tignasse prématurément grise et j'ai compris que l'heure n'était pas aux plaisanteries. Il m'a annoncé que 2 agents du FBI m'attendaient à l'étage du dessus. Ils souhaitaient m'interroger. J'avais pas besoin d'explications supplémentaires. Le FBI n'interrogeait jamais les officiers de la CIA rentrant de mission sans qu'il y ait une enquête criminelle dans l'air. Pourquoi le FBI, Fred ? Il a déplacé une boîte sur son bureau pour mieux me voir. Il se trémoussait, mal à l'aise dans son fauteuil. J'ai senti qu'on n'avait pas encore touché le fond. Il fixa sur moi ce regard connu de tous à la CIA et finit par me dire que Tony Lake avait ordonné au FBI d'enquêter sur mon compte pour tentative d'assassinat contre Saddam Hussein. Un assassinat. Ah, je savais que ce qui s'était passé en Irak allait à coup sûr faire trembler les vitres de la Maison Blanche. Je savais aussi que Lake, conseiller à la sécurité nationale auprès du président, était furieux contre nous. Mais là, c'était dément. Lâcher le FBI aux trousses de la CIA. Sans compter que l'accusation était fausse. C'est pas sérieux. Ce fut tout ce que je pus articuler. Fred a eu un haussement d'épaule. Tu n'as aucune idée de la façon dont fonctionne cette ville. Garde ton sang-froid et on te tirera de là. Rob Davis, un avocat du bureau du conseil juridique, était assis à la table de conférence dans le fond de la pièce, tellement silencieux que j'avais oublié. Il se mit de la partie et il me dit « Alors écoute, Bob, tu viens de passer presque 20 ans à l'étranger. Washington a vraiment beaucoup changé. Des enquêtes comme celle-ci, il y en a tout le temps maintenant. Fred a raison, tu vas t'en tirer. Et par la même occasion, ça fera toi un meilleur officier. » Ah ça, il avait raison sur un point. Washington avait changé. Mais que cette enquête pût être profitable à ma carrière, ça c'était des conneries. J'étais dans la boîte depuis assez longtemps pour savoir, depuis belle lurette, que la CIA ne soutenait plus ses officiers sur le terrain. Une enquête du FBI, même dénuée de fondement, ça signifiait que ma carrière était sérieusement compromise. À l'agence, comme ailleurs au gouvernement fédéral, on était innocent tant qu'on n'était pas mis en examen. Là, j'ai fait comme si Davis n'existait pas, et je me suis retourné à nouveau vers Fred. Lorsqu'il était ancien officier traitant, il avait eu, lui aussi, maille à partir avec le politiquement correct. Il savait comment le jeu se jouait à Washington. Et je comptais sur lui pour me donner quelques leçons accélérées. Alors là, il me dit, je monte le premier, on se le vend de son bureau, j'assisterai à l'entretien, Davis aussi. Mais n'oublie pas que Davis représente la CIA, et pas toi. Les agents du FBI vont te dire que tu as droit à un avocat. À toi de voir. Mais si tu en demandes un, franchement, ça va faire des ordres. On se retrouve dans 5 minutes. L'histoire manquait pas de piquant. C'était moi qu'on interrogeait, mais l'avocat bossait pour la CIA. Les 2 agents du FBI étaient assis à la table ovale du bureau du conseil juridique. Ils se sont levés, m'ont serré la main et m'ont montré leurs cartes. J'ai reconnu l'un d'eux. Mike et moi avions travaillé ensemble en 1986 à Wiesbaden, en Allemagne. Dans les mots, il resta strictement professionnel. Dès que nous étions assis, il me dit « Monsieur Baird, nous menons une enquête criminelle. Vous avez droit à un avocat. Souhaitez-vous en consulter un ?» J'ai décidé de m'en passer. D'abord, j'avais pas d'avocat. Puis même si j'en avais eu un, mon salaire de fonctionnaire ne m'aurait pas permis de m'offrir ses services pour une enquête prolongée. Alors, quelle autre solution ? Appeler l'Organisation américaine de défense des libertés individuelles ? Mais il faudrait leur expliquer que, étant accusé d'être un assassin de la CIA, j'aimerais néanmoins bénéficier d'une assistance juridique à titre bénévole. En outre, j'avais pas besoin d'un avocat pour savoir que, dans une enquête comme celle-là, la chose à jamais faire était de dire quoi que ce soit de son plein gré. J'avais moi-même conduit assez d'enquêtes pour le savoir. Se contenter de répondre aux questions par oui ou par non. Nous enquêtons sur une tentative de meurtre avec préméditation, l'assassinat de Saddam Hussein, commença Mike. J'ai rien répondu. Savez-vous que le décret présidentiel 12-333 interdit à la CIA de perpétrer des assassinats ? Le président Reagan avait fait promulguer ce décret en décembre 1981. Depuis, tout agent de la CIA avait l'obligation de le lire et de le paraffer. Je l'ai lu. Avez-vous tenté d'assassiner Saddam Hussein ? Non. Avez-vous jamais ordonné à quiconque d'assassiner Saddam Hussein ? Non. À votre connaissance, quelqu'un de votre équipe a-t-il tenté d'assassiner Saddam ? Non. Avez-vous jamais utilisé le nom de Robert Pope ? J'ai pas répondu. Mike tourna alors vers moi une épaisse chemise en craft et me montra un rapport de 3 pages où son doigt avait laissé une trace. Il était question d'une réunion en Irak du Nord, fin février 1995, entre Ahmed Chalabi, chef d'un groupe de dissidents irakiens, et 2 officiers de renseignement iraniens. Je me mis à lire le rapport. Chalabi avait dit aux Iraniens que les États-Unis avaient finalement décidé de se débarrasser de Saddam et de l'assassiner. À cette fin, toujours selon Chalabi, le Conseil national de sécurité avait envoyé une équipe NSC conduite par Robert Pope en Irak du Nord. Le NSC, expliquait Chalabi, lui avait demandé de contacter de sa part le gouvernement iranien afin de solliciter son soutien. Le rapport disait encore qu'au milieu de la réunion, Chalabi avait reçu un coup de fil et quitté la pièce, donnant ainsi aux Iraniens l'occasion de lire une lettre laissée en évidence sur son bureau. Prétendument écrite sur un papier en tête du NSC, elle demandait à Chalabi de fournir à M. Pope toute l'assistance requise pour sa mission. J'arrêtais là ma lecture. Je connaissais bien Ahmed Chalabi. J'étais en Irak du Nord au moment de la réunion en question, et je savais sans l'ombre d'un doute que Chalabi avait inventé cette histoire de toutes pièces. Il avait dû se dire que s'il pouvait berner les Iraniens et leur faire croire que le NSC et la Maison Blanche voulaient enfin sérieusement se débarrasser de Saddam, ceux-ci pourraient faire autrement que de les soutenir, lui et sa faction. Restaient néanmoins quelques problèmes. D'abord, il n'y avait pas de Robert Pope, ni de projet d'assassinat du NSC. Personne, ni le NSC, ni qui que ce fût, n'avait demandé à Chalabi de transmettre un message à l'Iran. Quant à la lettre, c'était un faux grossier. Chalabi l'avait laissée sur son bureau en sachant que les Iraniens résisteraient pas à la tentation de la lire dès qu'il aurait quitté la pièce. Jusqu'ici, tout allait bien. Mais comme beaucoup de pièges, celui tendu par Chalabi avait attrapé le mauvais lièvre. Non pas les Iraniens qu'il voulait leurrer, mais le conseiller à la sécurité nationale auprès du président des États-Unis. Visiblement, Tony Lake ne savait pas comment fonctionnait le Proche-Orient, comment les complots, les mensonges et les impostures, telle l'arnaque Pope montée par Chalabi, régissaient la région. En revanche, Lake connaissait bien Washington et la politique. Il s'était fait avoir et quelqu'un allait devoir payer. Dans les interminables querelles territoriales de l'administration, ça voulait dire la CIA. Et comme j'étais l'homme de la CIA en Irak du Nord, ça voulait dire moi. We'll probably have to do something about that. Peu importait à Lake qu'Ahmed Chalabi eût été jugé et condamné pour avoir escroqué sa propre banque. Peu importait que l'on soit au milieu de la plus importante action contre Saddam Hussein jamais engagée depuis la fin de la guerre du Golfe. On m'avait ordonné de rentrer à Washington. Désormais, ma carrière, ma réputation et mon avenir étaient entre les mains d'un homme très puissant et très en colère. En outre, l'agence pour laquelle j'avais travaillé pendant presque 20 ans avait laissé faire son brancher. Le pire de tout, peut-être, c'était que j'étais pas vraiment surpris. Si nos ressources humaines en renseignement s'étaient taries comme en plein désert, il y avait une raison. À commencer par un manque de cran des responsables du QG de l'anglais, en Virginie, l'endroit même où je me trouvais assis. Je finis de lire la note et levai les yeux. Je savais que si le conseiller à la sécurité nationale du président ne comprenait pas le Proche-Orient, les deux agents du FBI le comprenaient guère plus. Ah, certes, c'était pas leur boulot. Alors je dis, il n'y a pas un mot de vrai dans tout ça. Les deux agents du FBI devinèrent qu'ils n'aboutiraient nulle part. Ils se regardèrent avec un hochement de tête. Mike se tourna vers moi et me demanda, seriez-vous prêt à passer au détecteur de mensonges ? Sans problème. J'étais allé trop loin pour reculer. Mike me raccompagna à la porte. Arrivé dans le couloir, hors d'écoute des autres, il me dit, eh, franchement, le ministère de la Justice a eu du fil à retordre avec ce dossier. Le 12-333 les embêtait, alors à la place, ils ont pris l'article 18, alinéa 1952 et 1958. Je le dévisageais en attendant la traduction. La législation fédérale concernant le meurtre sur commande. Et il tourna les talons pour joindre les autres. Je devais découvrir un peu plus tard que la peine maximale pour une condamnation au titre des alinéas 1952 et 1958 était soit la prison à vie, soit l'exécution capitale.
Jacques Mathédoré au micro d'Histoire vivante en 2003.
La mission de la CIA reste, au milieu d'au moins 12, 13 autres agences très spécialisées, de les coordonner et de centraliser les efforts nécessaires à assurer, dit l'acte officiel de création de la CIA en 1947, la sécurité nationale des États-Unis et, précise le document, légalement ou illégalement. C'est-à-dire par tous les moyens. C'est noir sur blanc. Comme toute intelligence, selon l'acception anglo-saxonne du terme, le rôle de cette intelligence-là est de percer le secret des autres, mais d'organiser le secret autour de soi. Ça paraît évident, mais je crois qu'il faut parfois le rappeler.
Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les chefs d'État anglais, américains et soviétiques envisage sérieusement de mettre la main sur les scientifiques et ingénieurs nazis ayant travaillé sur les programmes aéronautiques du Reich, notamment les fusées. L'usine allemande des V2 de Dora Mittelbau est placée sous contrôle russe. De leur côté, les services secrets américains décident de faire main basse sur tout ce qui peut être pris dans l'usine. Le 2 mai, peu après la nomination de Harry Truman comme président des États-Unis suite à la mort de Roosevelt, Wernher von Braun et son équipe sont récupérés du site de Dora Mittelbau par les Alliés. Le 31 du même mois, le dernier convoi de camions du colonel Holger Tolstoï quitte le site de Dora Mittelbau quelques heures à peine avant l'arrivée des troupes soviétiques. Les éléments saisis sont d'abord acheminés à Anvers, puis transportés par bateau jusqu'à la Nouvelle-Orléans, pour finir leur transit secret au sein de l'arsenal Redstone dans l'état de l'Alabama. Pour calmer la colère des Soviétiques, les Américains promettent de rendre ce qu'ils ont pris, mais envoient en lieu et place un chargement de pièces de tracteurs défectueuses. Si l'immédiate issue de la Seconde Guerre mondiale a donné le sentiment d'une relative entente entre Russes et Américains, cette opération coup de poing est l'un des nombreux incidents qui vont alimenter de manière souterraine le terreau d'une terrible guerre froide. En septembre 1946, convaincu que les scientifiques allemands pourraient aider aux efforts d'après-guerre américains, le président Truman donne son accord pour autoriser le projet Paperclip. Ce projet Paperclip est ainsi appelé, trombone, tout simplement parce que les dossiers des scientifiques sont attachés à leur dossier d'immigration par de simples trombones. Le président Truman exclut d'avance tout scientifique ayant été membre du parti nazi. Un département de la CIA, le département G2, est chargé de la coordination de l'opération Paperclip. Il se doit de surveiller l'activité de toute personne pouvant représenter un risque pour le projet. Des enquêtes de fond sont menées. En février 1947, Boscott Wave, le responsable de ces enquêtes, soumet pour examen le dossier d'un premier groupe de scientifiques au département d'État de la justice. Les dossiers sont accablants. Tous les scientifiques du premier lot sont ou étaient des nazis férus. Leurs demandes de visa sont refusées. Boscott Wave est furieux. Il rédige un mémo d'avertissement indiquant que les intérêts des États-Unis ont été parasités par les efforts de certains à vouloir tirer sur une ambulance. Le régime nazi a disparu corps et bien, mais les ennemis de l'Amérique sont toujours là. Il ne faudrait tout de même pas que les savants en question tombent dans le camp adverse, le camp communiste. Passons donc l'éponge sur le passé et occupons-nous du présent. Telle est la vie de Boscott Wave. Il ne s'agit là, au fond, que de réécrire le passé de quelques collaborateurs. L'opération Paperclip va ainsi aboutir à la naturalisation d'un premier groupe de plus de 50 scientifiques allemands en novembre 1954. Un an plus tard, ce sont 760 scientifiques allemands qui obtiendront la citoyenneté américaine et des postes éminents dans la communauté scientifique américaine. Dans un exposé de 1985 dans le bulletin des scientifiques atomistes, Linda Hunt déclare avoir examiné plus de 130 rapports sur des sujets liés au projet Paperclip.
Chacun d'entre eux a été modifié pour éliminer la classification de menace pour la sécurité. Truman, qui avait explicitement ordonné de ne pas admettre des nazis dans le cadre du projet Paperclip, n'a apparemment jamais été averti de la violation de cette directive. Les archives du département d'État et les mémoires d'officiels de l'époque confirment cela.
Le projet sera stoppé en 1957 lorsque l'Allemagne de l'Ouest protestera auprès des États-Unis qui la dépouille de ses compétences scientifiques. L'opération Paperclip ne sera déclassifiée qu'en 1973. Jacques Mathédoré au micro d'Histoire vivante en 2003.
Se poser toute la question des relations entre la technique, la science, la politique et l'histoire. Vaste débat, on sait qu'il n'est pas encore achevé et qu'il ne s'achèvera peut-être qu'avec la réconciliation de la technique, de la science et de la sagesse qui était l'ancien idéal grec. Pour l'instant, par rapport à mes souvenirs, je me souviens que dans la littérature spécialisée, il y eut dans les années 50 un succès de librairie sous le titre « La chasse aux savants allemands ». Il y était raconté sous la forme romanesque, bien entendu, puisque, comme nous l'avons dit, nous sommes dans l'invérifiable. Il s'agit de la course-poursuite qu'Américains et Soviétiques, dès le lendemain de la bataille de Stalingrad, se sont livrés pour se partager les scientifiques et les techniciens haut de gamme de Hitler. Ceux de l'atome, pour le bonheur de la planète probablement, avaient déjà pour la plupart émigré outre-Atlantique. C'étaient des Européens antifascistes et surtout anti-nazis, Oppenheimer, Einstein, Teller, Fermi, etc. Il y eut ensuite le Danois Niels Bohr, qui a été transféré de force durant la guerre, c'était en 1943, je crois, où il participa à la mise au point à Los Alamos, donc de la bombe qui mit fin définitivement au Second Conflit mondial en explosant à Nagasaki et à Hiroshima. Il y eut encore une dizaine de savants atomistes qui ont ainsi pu passer dans l'autre camp au terme de l'opération dite Epsilon. Mais il en restait d'autres. Il restait les astronautes, puis les aéronautes comme Messerschmitt, qui a été le premier constructeur d'un avion à réaction, rappelons-nous. Et les astronautes, c'était d'abord von Braun, le père incontesté du programme spatial états-unien. Et il aurait dit au moment de choisir, entre l'oncle Sam et l'oncle Joe, ce que je veux, c'est un oncle riche. Pourquoi est-ce que nous nous en offusquerions ? Rappelons-nous que Léonard de Vinci présentait ses offres aux puissants, d'abord comme ingénieur et comme stratège. Il mentionnait que, en annexe, il avait quelques talents de peintre. Et puis, justement, dans la chasse aux ultimes savants, il y a les chimiobiologistes, auxquels appartient Kurt Blomet. Il était adjoint du chirurgien-chef du Troisième Reich, responsable du programme bactériologique, à l'occasion duquel il se signale aussi comme un spécialiste de l'anthrax. Sa compétence lui sauve aisément sa tête au procès de Nuremberg. Alors, poser la question morale à ce propos, boîte de Pandore pas, je crois que la science va à son propre chemin et il y a des savants résistants ou pas, des savants moraux ou moins moraux, des savants qui ont le sens de l'histoire et de le rôle dans l'histoire, et d'autres qui l'ont moins. La CIA aurait donc repris avec Frank Olson et ses collègues une part de ce Blomet parfait cynique. Je dirais, encore une fois, qu'il n'y a là rien que de très normal. Par définition, la CIA est orientée technologie avant tout. Elle s'est occupée de technologies lourdes. C'est elle qui a imposé à l'armée de l'air américaine l'étude et la fabrication de l'avion espion U-2, qui fit capoter le sommet de Paris. Je m'en rappelle parce que j'y étais. Et c'était une phase extrêmement tranchante de la guerre froide. Il est donc naturel que, toujours dans la technologie, la CIA s'occupe de ce qu'on appelle le lavage des cerveaux, soit chimiquement, soit psychologiquement. Et là, nous entrons dans un domaine extrêmement sensible, qui est celui de la culture, de l'information et de la désinformation. C'est dans ces deux derniers domaines qu'un service secret de sécurité nationale, qu'il soit américain, chinois, soviétique, enfin, quand on est une grande puissance, ne peut pas ne pas se consacrer à l'étude, puis à l'expérimentation, dans certains cas, voire à l'usage de ce qu'on appelle les substances chimiques ou biologiques. L'étonnant serait plutôt que nous nous étonnions de cela.
La presse entière s'est emparée du plus mystérieux et du plus tragique des faits divers de ces dernières années. L'affaire du pain qui rend fou. La paisible petite ville de Pont-Saint-Esprit a été la proie de ce mal inexplicable qui a frappé plus de 200 personnes. Des crises de folie hallucinatoire dues à la présence dans le pain de l'ergotine, le poison des céréales, ont fait plusieurs morts. La vente du pain a été aussitôt interdite.
Notre épisode était intitulé Ajax versus Pravda. Demain, la suite de cette évocation de la CIA réalisée par Jean-Philippe Zwalen en nouvelle diffusion.
Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc, en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté. Réalisation, Jean-Philippe Zvalon. Assistana de production, Corinne Rochat, Valérie Dantan, Daniel Zacker. Avec aujourd'hui la voix de Franck Semlet. Réécoutez podcast sur histoirevivante.ch. Vous écoutez la première, il est 14h.